Lundi, j'ai assisté à la présentation d'une étude de sociologie cognitive où, donc dans un laboratoire qui s'intéresse à la transition énergétique, qui était faite par un sociologue qui s'appelle Gérard Brunner et qui se proposait de voir les invariants. Il partait de l'idée que les gens sont défiants par rapport à la technique. Et donc, il se proposait de regarder un peu quels sont les invariants que l'on peut retrouver dans cette défiance. Pourquoi ? Et donc, l'idée, le deuxième niveau, c'est de détordre cette défiance et d'amener les gens à mieux comprendre ces techniques, ces technologies qui seront alternatives dans la transition énergétique. Et là, on a des analyses qui sont sans classe sociale, sans diversité, sans hétérogénéité. Et là, je trouve qu'on est dans une illusion et on réintègre l'idéologie qu'on était censé étudier. Voilà, c'était juste pour donner une illustration de mon propos.
Gaëtan Rispierre, sociologue. Je voulais revenir sur un point qui m'a intéressé, c'est la difficulté pour les participants à relever leur compteur, geste qui serait le plus difficile à faire.
Non, à adopter.
À adopter.
D'accord. Parce que les gestes en soi n'étaient pas difficiles à faire. Il y avait un papier, un crayon, et puis on regardait les chiffres, et puis voilà. Mais c'est ce qui les gênait le plus comme nouveau geste à adopter. Tout le monde a râlé contre ça, presque.
En fait, la question que je voulais poser, c'est... est-ce que derrière ces relevés de compteur, j'imagine qu'il y a un système où on leur montre ensuite des graphes ou des choses comme ça, quand ils ont quelque chose d'analytique. Est-ce que quel rôle ça joue? Est-ce que c'est utiliser ces informations-là? Est-ce que ça joue un rôle et, dans la transformation éventuelle des pratiques, etc.
Enfin, on peut retrouver beaucoup de grandes tendances là-dessus. Pour certaines, c'était on a trop dépensé comparativement à l'année passée ou au mois précédent et on n'arrivera pas à 9,8% pour l'équipe. D'autres, oui, on met, mais bon, on a déjà fait notre possible, donc voilà. Il n'y avait pas de tendance. En revanche, les gens ont beaucoup critiqué le réveil de compteur et ensuite ce que ça voulait dire en termes de graphique et de comparaison parce qu'ils disaient, ouais, mais c'est pas juste, cet hiver était plus froid. Sauf qu'il y avait une correction climatique. C'est-à-dire qu'on prenait en compte la différence de degrés. C'est vrai qu'il a fait plus froid la deuxième année que la première pour beaucoup d'entre eux. C'était sur l'édition 2010-2011. Et en fait, on peut faire une correction climatique en disant qu'il faisait 2 degrés de moins. Donc, ça va vous dire voici telle augmentation de la quantité d'énergie utilisée. Et donc, si on se retrouve au même niveau, voilà. Mais il y a personne. En fait, c'était complètement incompris. Les capitaines même avaient des difficultés à l'expliquer. Ils ont essayé de travailler sur la façon de véhiculer le message, sur la correction climatique. Je ne pense pas qu'ils aient fait mieux que ce que je viens de faire, malheureusement. Je ne sais pas si c'est clair. Voilà.
Donc, je veux dire, les gens n'étaient pas là à regarder tous les 15 jours si leur geste, effectivement, donner lieu à des changements. Je veux dire, c'était pas comme la chose.
Oui, c'est une façon de s'évaluer soi-même, mais c'était vraiment interprété de manière différente et utilisé de cette manière différente. Pour certains, c'était de ne pas passer, il faut donner un coup de colis en plus. Et d'autres, c'était de dire, de toute façon, je ne peux pas faire plus, donc, mais. Il y en a d'autres qui voulaient simplement comme la personne qui faisait aucun autre geste, sauf relever le compteur. Donc, on se retrouve avec une panoplie très, très diverse, en fait, de qu'est-ce qu'on fait, de l'appropriation. Là, on ne parle même plus d'acceptabilité. C'était accepté, on le faisait. On râlait, on le faisait. Mais l'appropriation, est-ce que ça veut dire en termes de suivi de soi-même, de suivi de comportement et de changement de comportement, on peut trouver de tendance. Ça a l'air assez aléatoire, en fait. Donc, peut-être que si on faisait les mêmes types d'entretiens sur cette question-là, sur 150 personnes, on verrait les patterns émerger, mais là, on n'a pas trouvé grand-chose.
Oui, bonjour, je suis Isabelle Richard, je suis postdoc, psychosociologue. J'ai beaucoup travaillé sur la question justement des changements de comportement relatifs à la mobilité, plus sur le covoiturage. Et donc, comme vous, en fait, je suis revenue des freins, je suis partie des freins au covoiturage pour pouvoir construire mes campagnes de communication. Et donc, en psychologie, on utilise beaucoup les connaissances, l'information, mais on sait aussi qu'il y a des limites à cette information. On utilise beaucoup les théories comme l'engagement, la communication d'engagement, ou encore le modèle France-TV. Et notamment, donc, par rapport à ça, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez mesuré les comportements après coup, c'est-à-dire après l'intervention, d'une part, et d'autre part, est-ce que ce système de compétition, est-ce que ça ne vient pas comme un biais, vous avez dit, par exemple, vous avez des résultats sur les motivations en elles-mêmes qui étaient difficilement explicables. Et or, pour moi, la motivation, enfin, la compétition, c'est une motivation extrinsèque au sens de, par exemple, des CRM. Et donc, du coup, ça pourrait expliquer cette rupture de lien après, finalement, la recherche, cette rupture des motivations, cette rupture des comportements. Et aujourd'hui, il existe des techniques, entre guillemets, de changement de comportement, même si je suis d'accord avec madame en disant qu'il ne faut pas que tabler là-dessus et pour revenir aussi à ce que, voilà ce qui est proposé aussi comme innovation. Mais par exemple, il y a tout ce qu'on appelle les implémentations d'action qui visent en fait à inscrire l'individu dans un plan d'action en fait en amont et non pas juste l'informer pour qu'il change ses comportements, mais bel et bien, parce que c'est une habitude en fait de comportement, l'accompagner, casser d'abord son habitude et après l'accompagner dans son cheminement. Et ça, en fait, ça marche très bien. Donc, c'était juste une remarque.
Alors, en fait, il y a le suivi dans le sens qu'il y aurait des réunions d'équipe régulières. Ensuite, il y a une espèce de grand power, un hypercours, et ensuite, on a fait un aussi, avec un prix décerné. La blague, c'est que le prix, c'est un voyage en avion. Ce n'est pas le cas, c'est juste la blague. La douche d'une demi-heure, il faut par mois. il y a un suivi, mais il y a un certain volontarisme là-dedans, c'est-à-dire que si je n'ai pas envie d'y aller, ou je suis occupé ce samedi-là, le jour de l'an, mais... L'autre forme de suivi, c'est pas tout à fait un suivi, mais c'est un partage des connaissances entre les ménages. Et ceux qui partagent le plus les connaissances, ce ne sont pas les vieux de la vieille qui le font depuis longtemps, c'est ceux qui sont relativement nouveaux dans le jeu de la consommation énergétique. Ils recherchent activement des trucs et des astuces, et ils veulent partager ce qu'ils ont trouvé, ou celles qui n'ont pas fonctionné, ils disent « non, fais pas ça, ça sert à rien ». Donc le suivi était là-dessus. Mais comme je disais, la plupart des intervenants étaient dans une carrière énergétique plutôt longue, hein. Certains juste de l'enfance. On ne leur demandait pas de briser les grosses habitudes. On leur demandait de modifier ou de renforcer des habitudes et des comportements déjà existants. Mais c'est ces gens-là qui avaient le plus de difficultés à se regarder de manière critique aussi. Ils sont tellement convaincus d'être dans le juste et le vrai que pour les faire bouger, en même temps qu'on regarde objectivement leur consommation énergétique et qu'on compare à la moyenne française, ils étaient bien en bas. Bien au-dessous, sans aucun problème. Peut-être juste rebondir sur la question de la transition. Il me semble que quand on parle de transition technologique, vous allez voir, je vais aller en venir parce que ça m'a fait penser à ça non, sur fait. Quand on parle d'innovation, excusez-moi, énergétique, on a souvent l'idée d'une équipe R&D chez machin, Schneider, voilà les grandes compagnies. Ils ont des objectifs commerciaux de prise de marché sur les bidules. Et là, ils vont faire. Ce que je veux dire, c'est une certaine forme d'intentionnalité, un certain plan d'action là-dedans. On a un objectif, pas toujours, des fois, on a une bonne idée par accident. Parfois, ce qui semble être une innovation technologique n'en est pas. Quand vous regardez la Wii, il n'y a pas vraiment d'innovation technologique là-dedans. Toutes les composantes et le niveau de programmation qui est dedans existaient déjà. Ce qui est nouveau, c'est l'utilisation qu'on a fait. L'utiliser comme une manière ludique de bouger, de faire des jeux à la maison. Mais sinon, tout était là. Donc, quand on parle d'innovation, en général, quand on parle d'innovation technologique, il me semble qu'il se fait une certaine forme de plan, de transition, d'objectif à atteindre. Et quand on parle de transition énergétique, de manière globale, il y a encore une fois, je trouve, une certaine intentionnalité. On a un objectif à 2050, réduire de 80% les gaz à effet de serre. C'est en 2020, avoir 20% des énergies renouvelables avec 20% de moins de consommation, avec 20% de blablabla 2020, les énergies politiques européennes. Donc il y a une intentionnalité, on se donne un objectif, et à partir de cet objectif, on fait du rétro-planning, on dit comment on essaye d'atteindre nos objectifs. Mais quand on parle d'innovation sociale, on est toujours dans l'intentionnalité? Parce que si on met une, si on applique cette idée d'intentionnalité à l'innovation sociale, on parle de manipulation et en échec ici. Donc là, ça pose des questions éthiques. Des questions aussi éthiques en termes du lien entre recherche et préconisation aux décideurs. Et pour moi, là, c'est là qu'il y a une différence entre changement social et innovation. Le changement social existe, on peut l'analyser, on peut essayer de comprendre les facteurs. Je ne suis pas sûr qu'il y a une intentionnalité à 2050. Donc, est-ce que le problème pour nous qui travaillons sur le carbone, sur le changement climatique, c'est que notre transition ne correspond pas au changement? Notre transition sociale telle qu'on a envie de la faire faire à 2050, la faire faire aux autres, parce qu'avec soi-même c'est autre chose, ne correspond pas au changement social, comment dire, pas plus naturel, mais. Oui, voilà.
Juste une petite réponse.
On va envoyer sacrée question là, je.
ce que vous appelez l'intentionnalité, moi j'appellerais ça la légitimité et l'existence de discours différents et qui ont plus ou moins droit au chapitre.
Et oui, non, c'est pas votre problème.
Oui,
ça.
Mais c'est pas de l'intentionnalité. Moi, je pensais par exemple à des innovations énergétiques qui sont tenues par des laboratoires de sciences et technologies où le discours est posé comme vrai. Donc, il n'y a plus possibilité d'aller ailleurs, quoi, vous voyez. Donc, il y a quand même du pouvoir entre les discours et on a tendance un peu à oublier cette diversité, ce droit au chapitre, si vous voulez, qui est différent, et des objectifs aussi dans les populations qui sont différents.
Oui, mais le sociologue joue un rôle là-dedans, dans cette relation de pouvoir entre deux discours. Je travaille souvent avec des ingénieurs qui me disent « Ouais, mais ça marche, mon machin, pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas l'accepter ?» Et là, le sociologue dit « Non, mais quand vous me demandez de faire de l'acceptabilité, vous voulez que je fasse du marketing ? Vous avez une équipe de marketing qui sont 100 fois plus efficaces que moi. Si vous voulez comprendre l'acceptabilité sociale, vous ne voulez pas comprendre du marketing, ce n'est pas la même chose. » Et là, on a un rôle à jouer pour dire « Non, le bidule que vous allez créer, il ne sera peut-être pas utilisé aussi bien que vous voulez ou pas du tout de la manière que vous pensez par ailleurs. » Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vouloir rentrer dans le réservoir de sa voiture à hydrogène pour aller bidouiller, pour augmenter la performance, et peut-être que ça va lui péter à la gueule. C'est pas exclu. Les gens aiment bien bidouiller avec leur mécanique. Donc, on a un petit peu ce rôle entre les deux. Mais n'empêche que sur l'innovation, je. Ouais. Non,
mais deux, alors, c'est génial. Ce rôle, on va le discuter.
Si on a le temps pour la question, moi j'ai adoré le fait que vous mettiez, en participant, mettre en avant la sobriété. Ça va totalement en tradition avec les discussions que nous on a fait dans le projet, donc c'est parfait. On disait, la première demande c'était l'accord de verre ou des bons durables. Pour promouvoir par la qualité, par l'apport. Et là, en fait, finalement, la promotion se fait par la référence à la critique de la société sur un moment, c'est une promotion. Donc, maintenant, disons. Et du coup, je me demandais, moi, l'un des trucs dans cette recherche un peu des leviers que je m'étais interrogée sur la notion de client, sur des choses comme ça, c'était, je me demandais dans quelle mesure, c'était dans quelle mesure les moments où. Les gens adoptent ces pratiques-là, mais ils le mettent dans un récit. En fait, tout ce qui est la mise en récit pour relier un passé, une expérience passée, ou si c'est des parents ou des choses comme ça, à une projection future. Et du coup, ce que vous avez pensé dans votre intervention à ça, c'était la référence familiale, la transmission, ou alors la critique de la société, une société idéale, enfin, toutes ces mises en récit-là. Et je trouve ça assez intéressant, dans le Pas-de-Calais, des gens qui avaient des parents qui sont décédés, mais qui étaient syndicalistes, comment ils réinterprètent mais une continuité entre cette vision syndicaliste communiste, avec eux, un investissement écologique aujourd'hui, toutes ces mises en récit comme une façon aussi d'expliquer ce qu'on est en train de faire là, et pas forcément une référence écologique ou développement qui nous permettent complètement parachuter justement.
Bon, les gens sont très conscients. En fait, ils ont un discours très conscient sur eux-mêmes. Bon, on m'a toujours fait ça dans ma famille. Moi, ma mère, elle me dit ta-ta-ta-ta, donc moi, maintenant, ta-ta, c'est pas tout à fait la même chose parce qu'ils sont plus grands, mais voilà, ta-ta. Et en fait, c'est assez conscient. Hein, comme il y a l'exercice du regard sur soi, il n'est pas fait seulement sur la, l'énergie, on dirait. Il y a une attitude de capacité à porter un regard sur soi qui n'est peut-être pas tout à fait commun non plus. Ce qui réduit encore une fois la capacité à diffuser ce programme à la population de manière plus générale. Mais peut-être pas non plus. Hein. C'est l'horreur.
Parce que nous, on a des quartiers plutôt défavorisés, parce qu'il n'y a pas des CSP plus comme ça. Là, elle pense juste à ma grand-mère pendant la guerre. Elle vient assez régulièrement, quoi. Enfin, sur justement cette référence de sobriété. Et là, pour le coup, ce n'est pas du tout des références utilisées par des gens de CSP plus et tout. Quoi.
J'avais une petite question un peu provocatrice peut-être. Mais je voulais savoir pour tous ces chercheurs qui sont donc. Mandaté par des entreprises et des États et autres pour demander aux gens de faire plus d'efforts chez eux, si ça leur posait pas un peu de problème que ces acteurs qui les mandatent, dans le même temps, incitent constamment à la croissance du PIB, l'achat de nouveaux produits, toujours plus énergivores. Et justement, comment vous faites par rapport à ça? Si vous mentionnez à chaque fois, vous faire des efforts au niveau individuel, très bien, mais à côté, il faut aussi que ça change, sinon ça ne change rien du tout. Donc, je les avais un petit peu que l'édition pouvait adopter le chercheur, c'est clair.
C'est une question qui m'est souvent adressée par mes collègues politologues. Mais là, on parle d'épistémologie. Moi, on m'embauche pour, dans ce cas-ci, que ce soit FAEP ou d'autres choses, mais particulièrement FAEP, il y a. Chez FAEP, une vraie culture de l'expérimentation et du regard sur soi, parmi les gestionnaires de FAEP. D'accord. Ce qu'ils voulaient, c'est une évaluation. Les préconisations en découlent. Je peux m'arrêter à l'évaluation, ne pas faire de préconisations. Ce que la plupart de mes collègues politologues font, sauf pour ceux qui travaillent sur l'environnement, le climat ou l'énergie, parce que si on ne fait pas de préconisations, on n'obtient pas de financement. C'est pas compliqué. Dans ce domaine particulier, environnement, climat, énergie, quel que soit votre domaine, même les économistes, si vous voulez vous faire publier dans une revue qui va publier sur ce sujet, la revue française de Sciences Po ne le fait presque pas, il faut qu'il y ait des préconisations parce que sinon on ne voit même pas l'intérêt de l'article, quelle que soit la qualité d'évaluation ou de l'analyse. Donc c'est une condition. Ensuite, quand je remets la préconisation, qui découle selon moi du plus proche de la meilleure analyse que je peux en faire, je suis bien conscient que ce que la personne en face qui reçoit ce rapport va en faire, je ne sais pas s'il va avoir un rapport, franchement, s'il va avoir un lien entre ma préconisation et les actions qui vont être mises en œuvre. J'ai plutôt de la chance là-dessus, dans le sens que souvent je revois certaines de mes préconisations passer dans le programme de politique publique sur la mobilité, par exemple. C'est satisfaisant au niveau personnel. Ça correspond à mon éthique. Sur ce, je peux vous répondre subjectivement. Travailler dans le sens d'une plus grande efficacité énergétique et dans le sens d'une lutte contre le changement climatique correspond parfaitement à mon éthique personnelle. Je travaille aussi dans ce sens-là. Est-ce que ça veut dire que je brouille les cartes? Selon moi, non, parce que j'utilise les outils, les cas d'analyse classiques de la science politique. Je bricole pas, justement, pour ne pas me faire avoir là-dessus. Donc, j'utilise entretien semi-directif, je dis exactement comment je les ai utilisés, comment je les ai montés, quel type de questions ont été posées, les transcriptions sont disponibles, etc., etc., et j'en fais l'analyse. Donc, moi, personnellement, ça marche avec mon éthique, je n'ai pas un problème éthique avec ça. Je n'ai pas non plus un problème d'éthique en termes de professionnel chercheur. Je ne crois pas que de toute manière une recherche peut être objective. Donc soit je ne fais plus de recherche et je change de boulot complètement, soit je continue à faire ce que je fais. C'est vraiment c'est perso. Hein. Je peux pas, pour moi, il n'y a pas de justification objective que je peux vous donner. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
En partie, oui.
Mais j'ai tendu la perche au début. Hein. Tout à l'heure, il fallait que quelqu'un la reprenne. Sur l'application du chercheur vis-à-vis du décideur.
Alors, s'il n'y a plus de questions, juste 30 secondes. C'est intéressant, je trouve, l'histoire du compteur. Parce que finalement, c'est le moment où on rend la copie.
C'est vrai, je n'avais pas pensé comme ça.
Donc c'est entre eux finalement, parce que c'est le moment où on est évalué. Et il y a certaines familles qui ont les catégories sociales, etc., qui ont beaucoup plus de mal à être évaluées parce qu'elles sont sans arrêt évaluées et leur évaluation sociale est souvent défavorable. Donc, voilà.
L'évaluation d'eux-mêmes.
Oui, oui, on traîne une évaluation d'eux-mêmes. Et alors, la deuxième chose, c'est que quand même, le chercheur, il n'a pas qu'un seul public, il a plusieurs publics, et on peut imaginer qu'il répond à une commande, mais que d'abord, il puisse élargir dans sa réponse la réponse stricte à la commande, puis on peut imaginer qu'il ait d'autres champs, à compte donné, comme celle d'aujourd'hui, où il puisse avoir un travail réflexif, peut-être sur justement en termes d'épistémologie.
Oui, parce que bon, tant qu'on rend l'accord. Le cadre théorique général de Sciences Po, politique publique ou socialisation, ils n'en ont rien à faire. Ça ne les intéresse pas. Ce qui m'empêche, moi, d'utiliser ça comme matériel et source de données, d'informations, de connaissances, d'argumentation, de discours, de représentation, pour ensuite nourrir un cadre théorique que je vais par ailleurs publier dans des revues. Et ça intéresse très peu. Peut-être, Frédéric Delemeau, qui est plutôt bien calé sur un paquet de trucs, pourrait lire ça facilement. Mais ça n'intéresse pas les gestionnaires ou ceux qui sont sur le terrain qui veulent, eux, avoir des préconisations, des actions assez, assez précises là-dessus. Alors là, je viens d'avoir un gros regret. On n'a pas évalué la réaction émotionnelle de la prise en compte du releveur. Là, c'est un gros manque. Il n'y a personne qui l'a vu. Chez personne, Frédéric non plus, ma collègue sociologue non plus. Et là, franchement, on est passé à côté de quelque chose. Merci. Ça fait chier, mais merci. Parce que là, on a peut-être un élément de réponse.
Et le deuxième aspect, tu as répondu en disant ça correspond à mon éthique personnelle. Mmh. Le problème qu'on a quand même avec le développement durable, c'est que, comme disiez tout à l'heure, c'est que cette éthique, cette éthique consensuelle, elle est quasiment jamais réfléchie. Comme une des options possibles. C'est-à-dire, quand on parle de développement durable, c'est une des options possibles pour prendre en charge les questions environnementales.
Mais mon éthique n'est pas développement durable.
D'accord.
Et elle n'est pas consensuelle non plus. Moi, je suis dans le système beaucoup plus nord-américain. Il y a un dicton nord-américain, américain d'ailleurs, bon, ça fait longtemps qu'ils sont sortis de ça, mais n'empêche que le dicton est intéressant. J'ai le droit de dire ce que je veux, vous avez le droit de dire ce que vous voulez, et je me battrai à mort pour vous donner le droit de dire ce que vous voulez. Donc pour moi, la multiplicité des discours, elle est essentielle à toute forme de démocratie. Mon boulot, c'est pas de donner priorité à l'autre, c'est simplement de les analyser, d'expliquer. Ensuite, personnellement, j'en fais peut-être mon affaire. Mais de toute façon, je suis pas dans le développement durable, parce que pour moi, ça marche pas. Et que je suis un petit peu trop écolo-radical pour l'être, de toute façon. Donc voilà.
D'accord, sauf que si on regarde les acteurs dans le champ et les commandes publiques dans le champ, ils sont quand même.
Ah, ils sont loin de moi.
D'accord,
ouais. Ouais, ça va. J'ai un pied dans l'écologie moyenne et un pied dans Gaïa. Ouais, pour ceux qui connaissent un petit peu le continuum écologique, voilà.
Rapidement, il y a vraiment 30 secondes.
Oui, 30 secondes,
oui. Vraiment très intéressant cette.
C'est la dernière.
Cette question de la conscientisation des pratiques, c'est très intéressant. Ce que j'ai constaté dans une enquête que j'ai menée dans un bâtiment BBC de la Zac de Bonne à Grenoble, c'est que.
Oh, on s'en reparlera après. Je travaille là-dessus en ce moment.
Les habitants ne voulaient surtout pas conscientiser leurs pratiques. Ils voulaient habiter sans y penser. Ils voulaient que le logement soit comme l'air qu'on respire.
Oui.
Et le bailleur, lui, a mis des innovations qui justement rappelaient leur présence aux habitants. Et c'est intéressant parce que le problème n'était pas le même selon que l'on se situe dans le monde des acteurs ou dans le monde des habitants. Pour les acteurs, le problème, c'était l'habitant et ses usages. Tout comme dans les années 70, avec le modernisme et l'avant du chimisme. Pour l'habitant, le problème, c'était ces innovations qui ne permettaient pas d'habiter sans y penser. Et d'où les solutions aux problèmes qui sont posé différemment, c'est-à-dire que pour les acteurs, la solution au problème, c'est la pédagogie. C'est, on va de manière stratégique ajuster un discours pour pouvoir faire passer des messages normatifs. De l'autre, pour les habitants, pour résoudre le problème, on bricole, on contourne la façade végétalisée, on la coupe, on met des insecticides, on détourne le système d'arrosage. Donc c'est intéressant de voir que le problème n'est pas le même pour les habitants et pour les acteurs. Et je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur l'habitude, dans le sens où l'habitude libère de la disponibilité collective réellement, hein, de nouvelles possibilités d'action. Et ça, c'est très intéressant dans le logement. C'est-à-dire que là, par exemple, avec le sol écologique qui est introduit dans les bâtiments de l'éco-quartier de Bonn, il ne s'agissait pas de faire le ménage sans y penser, c'est-à-dire selon les usages et l'imaginaire social collectif. Il s'agissait en fait de justement de nouveau penser à faire le ménage. Ça prenait du temps aux habitants. Ça leur posait problème.
J'adore trouver des stratégies de contournement comme ça, moi ça me botte quand je fais des...